Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
What time is it?
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode podcast sur Touchdown Actu. On va parler draft, vous en avez l'habitude, maintenant c'est deux fois par semaine. On a parlé des edge rushers il y a deux jours maintenant. C'est un autre sujet aujourd'hui puisqu'on va parler du run stop. Et qu'est-ce qu'on entend par run stop? En fait, on va vous parler des défenseurs, des linemen intérieurs et des linebackers. Pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard, bonjour à toi.
Et salut, ça va Victor?
Et ça va, ça va. On a un gros programme, on a beaucoup de noms là. Là, on a beaucoup
de
noms et ça va être très intéressant à étudier parce que on a deux classes vraiment, vraiment intrigantes. On a du très gros potentiel et on a aussi beaucoup d'énigmes très intéressantes. On perd pas de temps. On va tout de suite partir dans le chapeau numéro 1.
Ok, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU.
Le chapeau numéro 1, avec des noms que vous connaissez si vous écoutez nos podcasts, parce qu'on a parlé de ces quatre joueurs un peu plus en détail dans les podcasts dédiés. On a trois linebackers. Micah Parsons de Penn State, 1m90, 111 kg. Jeremiah Owusu-Koramoah, Notre-Dame, 1m85, 97 kg. Zaven Collins, Tulsa, 1m93, 117 kg. Et Christian Barmore, Alabama, 1m96 et 140 kg. Alors vous l'aurez compris aux mensurations, Barmore est l'intrus de ce groupe puisque c'est le seul qui n'est pas linebacker mais qui est bien un defensive tackle. Donc on va vous parler de ces joueurs les uns après les autres. On va peut-être parler du plus gros potentiel, de celui qui clairement est au-dessus des autres dans cette classe. Micah Parsons, Jean-Michel, si tu devais nous décrire avec un adjectif et ensuite nous parler du joueur.
Monstre, le monstre. Tu vois le freak, c'est chic, ben c'est lui. Voilà, c'est freak out. Ah oui, non, mais c'est il a la taille de Fred Warner, la vitesse de Devin White et l'aptitude au pass rush d'Anthony Barr. Voilà, c'est un monstre athlétique. Au lycée, il jouait defensive end et running back. Il a tout. Il a le gabarit, il a la puissance, il a la vitesse. En fait, il sait tout faire. La seule petite, on va dire en couverture, il n'a pas souvent joué en couverture avec Penn State, mais bon. Il a fait deux saisons extraordinaires. Alors, il a renoncé en 2020, il n'a pas joué. Mais les saisons 2018 et surtout 2019 ont été super impressionnantes. C'est vraiment, comme tu dis, le numéro 1 de cette année.
Oui, bah, on peut en parler hein, de ces stats 2019. On parle de 109 plaquages, 14 tacles pour perte, 5 sacks, 5 passes défendues, un fumble recouvert, 4 fumbles forcés. Bon, bah, c'est complet. Hein. Il y a tout. Il y a de tout et c'est à l'image du joueur. Explosif, c'est un joueur. Alors, quand il s'agit de blitzer sur l'intérieur, il n'y a pas mieux. Alors, excellent au blitz, mais alors particulièrement à l'intérieur, il trouve des trous de souris pour aller chercher le quarterback adverse, c'est assez incroyable. Très bon plaqueur, très bon plaqueur, vraiment, on le voit, je crois qu'il y avait une stat, et il a loupé 12 plaquages sur 190, enfin une stat qui est juste hallucinante pour un linebacker. Donc voilà, c'est un si vous voulez un linebacker contre la course, en blitz, en pass rush, même parfois pur, il fait l'affaire. C'est vrai que la couverture de passe est un domaine, on ne sait pas si c'est une faiblesse, mais comme tu l'as bien dit, c'est plutôt un domaine inexploré aujourd'hui dans son jeu. Moi, je vais parler d'extra sportif, parce que c'est le seul point noir, évidemment, de ce joueur, et c'est ce qui explique que dans certaines mocks, il part dans top 15, top 20, au lieu de partir dans top 5 ou top 10. Il semblerait qu'avec notre cher Yetur Grosmatos, qu'on a vu l'année dernière, il se soit comporté de manière inappropriée, on va dire, avec ses coéquipiers, leur ayant fait subir quelques bizutages. Donc après, bon, c'est les histoires d'université, il y a un joueur qui a porté plainte, est-ce que tout est vrai ou quoi, on n'en sait rien, c'est toujours en cours et on n'a pas les détails de l'affaire. Mais c'est suffisamment sérieux pour que beaucoup d'équipes le prennent en compte dans leur évaluation.
Oui, c'est ça, exactement. Après, ça date de 2018, de ce que j'ai pu lire, de tous les joueurs incriminés, c'est pas lui le plus incriminé. Donc voilà, il faut attendre les résultats de l'enquête, on verra bien ce que ça donne. Mais comme nous, on se concentre sur le joueur, voilà, c'est le total package, c'est un futur All-Pro. C'est-à-dire que je ne parle même pas d'un Pro Bowler, je parle d'un All-Pro, quoi. Voilà, et contre la course, c'est un démon. Et puis, comme tu l'as dit, pour mettre la pression sur le quarterback adverse, mais il a été recruté à Penn State comme un pass rusher. C'était un pass rusher à la base, donc il a gardé ça. Alors, il le fait plus du milieu terrain désormais, mais il a toujours cette aptitude. C'est a priori, enfin, c'est même sûr, sportivement, c'est le meilleur défenseur de cette année.
Ah oui, oui, c'est le meilleur défenseur, et en talent pur, ça serait difficile de l'enlever du top 5. Après, sa position fait qu'il ne sera pas forcément dans le top 5 de la draft, mais c'est un potentiel absolument incroyable.
Ah oui.
Deuxième joueur, très à la mode cette année, Jeremiah Owusu-Koramoah, Notre-Dame.
Ah, tu l'as bien dit.
Ouais. Bah, oui, à chaque fois, Koramoah, c'est difficile. 62 plaquages, 11 pour perte, 1,5 sac, 1 interception, 3 passes défendues, 2 fumbles recouverts, 3 fumbles forcés, 1 touchdown. Là encore, on voit une ligne de stats comme ça, on ne peut que s'émerveiller. Ton adjectif et ton analyse du joueur ?
Ah, je ne vais pas être original, hein, je vais dire rapide. C'est un missile. Jock, c'est un missile. C'est-à-dire, dès que le ballon est engagé, il a une vitesse de réaction supersonique. Il est également extrêmement rapide pour aller d'un côté à l'autre, pour chasser un running back, ou alors pour contourner, pour faire des changements de direction. Il est bon en couverture, il a fait 2 saisons extraordinaires avec Notre-Dame. Voilà, c'est un missile, une grosse, grosse, grosse vitesse. Alors si tu veux, je vais dire 2 mots sur les positions un petit peu plus faibles chez lui, sur son profil. C'est déjà son manque de gabarit. Tu as rappelé ses mensurations tout à l'heure. Voilà, il n'est pas très grand, il n'est pas très lourd non plus.
Il serait le plus petit linebacker de la NFL s'il entrait aujourd'hui en position de linebacker, et on va en parler.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, une petite limite, des fois il rate des plaquages, parce que c'est sûr que l'an prochain on le verra sur des highlights où il va arriver à 3000 à l'heure, il va percuter un running back, il va le faire voler. Mais cette aptitude fait aussi qu'il va rater certains plaquages, le fait de vouloir faire le gros hit. Mais bon, ça reste à la marge tout de même, c'est un sacré joueur. Après, par rapport à son gabarit, tu vois, moi je trouve pas ça très rédhibitoire quand tu penses à Deion Jones, des Falcons d'Atlanta, qui a le même gabarit, qui a ce même profil très rapide. Moi, je pense qu'il peut rester linebacker. Après, de toute façon, les schémas, c'est sur le papier. Il sera sur le terrain, que ce soit un linebacker pur ou un hybride safety linebacker, il trouvera sa place.
Oui, moi, c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs hybrides linebacker safety, un peu comme il y avait, même si c'est pas exactement le même joueur, mais Isaiah Simmons l'année dernière, qui sont ces joueurs un peu hybrides polyvalents. Mais en effet, il y a beaucoup de systèmes où tu as des joueurs qui sont safety ou linebacker sur le papier, mais qui font un peu des deux. Je vais prendre l'exemple de Malcolm Jenkins, que ce soit aux Eagles ou aux Saints. Finalement, il est un peu safety, un peu linebacker, mais il n'est pas vraiment l'un ou l'autre. Donc, de plus en plus, les postes sont de plus en plus brouillés dans la NFL d'aujourd'hui. C'est très difficile d'être un linebacker exclusif ou un safety exclusif. C'est de plus en plus hybride. Donc, il est dans l'air du temps. Il est dans l'air du temps. Et il y a 15 ans, il aurait été safety. Aujourd'hui, il peut être linebacker.
Ah oui, oui, je pense, ouais. Et puis, de toute façon, moi, je prends ça comme une richesse, pas comme une faiblesse. C'est-à-dire que, comme tu dis, ça va surtout brouiller les attaques adverses. Parce qu'il peut se positionner à divers spots et on ne sait pas d'où il va sortir. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une force, même.
Bon, on parle de gabarit. Là, je vais te rajouter 10 cm et 20 kg.
Oh là là, oui.
Zaven Collins, Tulsa, le Anthony Barr du riche. Parle-nous, non, c'était Brian Urlacher, tu disais, pour ceux qui s'en souviennent. Parle-nous de Zaven Collins.
Ah, lui, il est polyvalent, c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est un physique de pass rusher, il est vraiment grand, il est costaud, il est lourd, il est puissant. Mais en même temps, il jouait middle linebacker. C'est ça qui est impressionnant, parce que c'est très rare des joueurs de son gabarit qui jouent à ce poste. Et pourquoi il pouvait jouer à ce poste? C'est parce qu'il est très bon contre la course, pour aller arrêter les coureurs, mais il est très bon en couverture également. C'est quelqu'un de très polyvalent, et puis il est très fluide pour son gabarit. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'a pas la vitesse ni de Jock, ni de Micah Parsons, mais il n'est pas lent non plus, c'est pas un joueur lent du tout. Moi, il me fait penser même à Eric Kendricks, tu vois, des Vikings de Minnesota, c'est-à-dire ce joueur costaud qui défend très bien la course, mais en même temps qui a de grosses capacités en couverture. Et c'est ça, Zaven Collins.
Non, mais je te rejoins totalement. J'aime bien la comparaison avec notre cher Eric Kendricks, en effet, que je connais bien, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Globalement, c'est une anomalie de la nature. Un mec aussi gros ne devrait pas être aussi rapide. Ça ne devrait
non,
pas
c'est
arriver.
Ça, oui.
Moi, je me souviens, c'est Tulane. C'est Tulane où il fait un pick six et il remonte tout le terrain pour la victoire en overtime.
C'est ça.
Tu le vois remonter le terrain, tu vois que le running back n'arrive pas à le rattraper, tu dis mais c'est quoi ce délire quoi, c'est pas possible.
Ouais.
Le mec c'est un defensive end, t'arrives pas à le rattraper, c'est juste hallucinant. Après, paradoxalement, lui qui a été recruté en pass rusher, finalement ce qu'on a presque le moins vu à Tulsa, c'est ses capacités de pass rusher pur.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
C'est là
moi, je
tout
pense
le
qu'il les a.
Du truc. Oui, je pense qu'il les a aussi, mais il n'a pas été vraiment exploité sur ce domaine. Clairement, moi, Zaven Collins, c'est un grand, grand coup de cœur. Je pense que c'est un phénomène physique, et c'est pas que un phénomène physique. C'est un phénomène sur le terrain. Il est intelligent, il le montre à chaque action. Et je pense vraiment que lui. Pour le coup, il y a un potentiel All-Pro. Alors, pas aussi évident que peut l'avoir Micah Parsons. On n'est pas sur un joueur aussi accompli. Et puis, bon, malgré tout, il n'est pas dans une conférence extraordinaire. Il n'a pas affronté les meilleures équipes du pays. Mais il y a quand même un truc, quoi. C'est vraiment une anomalie, ce joueur. Et quand je vois une anomalie pareille, moi, ça me donne envie. Je dois avouer que c'est un joueur qui m'impressionne. Je sais pas quoi faire, je sais pas quelle peut être la limite de ce joueur. À chaque fois que je regarde, je me dis il va être encore meilleur que je pense, donc c'est une vraie énigme.
Ah oui, mais tu vois, il te fait envie, mais je pense qu'il fait envie aussi à beaucoup de coordinateurs défensifs. Hein. Avec son gabarit, avec sa polyvalence, il peut faire vraiment beaucoup de choses. Ah ouais. Il trouvera vraiment une place en NFL. On va en entendre parler de celui-là. Retenez son nom, Zaven Collins.
Et avant de passer sur Christian Barmore, dont je disais qu'il est le seul defensive tackle de chapeau 1, si tu dois classer ces trois-là, 1, 2, 3, c'est dans quel ordre?
Bon, personne numéro 1. Là, il n'y a pas de doute, c'est personne numéro 1.
D'accord.
Ensuite, ça dépend vraiment de ce dont tu as besoin, en fait. Entre Koramoa, qui est très rapide, qui va vraiment chasser les coureurs sur toute la largeur du terrain, ou Collins, qui peut faire diverses choses avec du gabarit et de la couverture, parce qu'on le voit, la couverture, c'est très important, notamment sur les tight ends. Donc, ça dépend vraiment de ton système. Mais bon, allez, tu me demandes mon choix. Moi, je dirais Parson 1, Jock en 2 et Collins en 3.
Ouais, moi, j'ai plutôt Collins en 2, mais en effet, ça dépend de qui t'affronte. Mais si tu dois affronter George Kittle deux fois par an, T'es content d'avoir Zaven Collins. Je veux pas donner des idées à certains, hein, mais coucou et Cardinals. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc notre quatrième larron, Christian Barmore, Alabama, 1m96, 140 kg, 37 plaquages, 9,5 pour perte, 8 sacks, ce qui est beaucoup pour un defensive tackle, 3 passes défendues, 3 fumbles forcés. Je te laisse nous en parler avec un petit adjectif. Je sais que tu aimerais bien le voir débarquer du côté de Vegas éventuellement. C'est un joueur qui te fait envie, ça.
Ah oui. Il me fait vraiment envie pour les Raiders, oui. Parce qu'il est puissant. C'est vraiment la première chose qui me sort pour moi quand je vois Christian Barmore. Il est très puissant. Et il est très puissant dans n'importe quel alignement. C'est-à-dire qu'il peut être en nose tackle, il peut être un petit peu décalé au niveau du guard. Il est vraiment très puissant. Il t'apporte sur le run stop, évidemment. Il sait mettre la pression, tu l'as rappelé. C'est vraiment un gros total de sacs pour un joueur intérieur, tu vois. Et c'est pas comme s'il avait bénéficié d'avoir de super pass rushers à Alabama. Il y a bien le jeune Anderson, mais c'est pas leur meilleure classe cette année. C'est vraiment Barmore qui a porté la pression. C'est incroyable. En plus, il est très vif pour son gabarit. C'est pas seulement un obstacle qui va être lourd au milieu pour stopper les brèches de course. Il est vraiment très vif dans ses mouvements. En plus, il a une grosse expérience. Donc, il jouait à Alabama. Il a joué des gros matchs. On l'a vu en finale universitaire. Il a été très bon. Donc, ouais, c'est un monstre. Hein. C'est un monstre, Christian Barmore.
Oui, c'est vrai. Alors, Nostackle plutôt 4-3, on est d'accord ?
Oui, plutôt dans une 4-3. Oui, c'est vrai qu'au niveau universitaire, il pouvait le faire dans une 3-4. Oui. Mais bon.
Moi, je vois mieux en 4-3. Mais c'est un point que tu as dit qui est très important. C'est que Barmore, contre les petites équipes, tu as l'impression qu'il n'a pas envie de se fouler. Il ne montre pas grand-chose. Mais alors, dès qu'il y a de la pression, dès que c'est du gros match, dès que c'est de la grosse université en face, là, il y va. Et quand il y va fort, quoi. C'est vraiment un joueur qui fonctionne à la motivation. Bon, j'espère qu'en NFL, ça lui suffira comme motivation, hein, quand même. En effet, c'est un joueur qui n'a pas un nombre de matchs énorme en tant qu'expérience, mais quand tu joues à Alabama, les matchs comptent double. Et quand en effet, il était le leader de cette defensive line qui n'était pas, paradoxalement, la force cette année de Alabama. Bon, ça reste un très bon niveau, mais on se comprend. Non, il est incroyablement agile pour son gabarit. Tu l'as dit, hein, c'est un vrai pass rusher de l'intérieur. C'est vraiment ce genre de joueur. C'est pas seulement qu'il va être disruptif, on en aura d'autres qui sont disruptifs après. Lui, il sera vraiment efficace et capable de faire des saisons à 10 sacs. Alors, peut-être pas day one, hein, évidemment, mais des saisons à 10 sacks, c'est pas si courant chez les defensive tackles. Bon, on met de côté l'anomalie Aaron Donald, mais ça, de toute façon, si on met Aaron Donald dans les stats, ça fausse toutes les stats de la Terre. Donc, c'est un joueur qui est vraiment intriguant. Je suis assez d'accord ça. Et je pense qu'on va le voir et on va vraiment apprécier. Et je suis d'accord, les Riders, ce serait vraiment un super fit.
Ah oui, ça nous irait très bien. Et pourquoi il est dans le chapeau 1 ? C'est parce que c'est vraiment un joueur pour les trois tentatives. Parce qu'il y en a d'autres qui sont talentueux, des defensive tackles dans cette classe, mais soit c'est vraiment des run-stop et donc c'est plutôt pour les deux premières, soit c'est plutôt des gars agiles, on va en parler, c'est plus pour le troisième. Lui, c'est vraiment pour les trois. Les trois, il est là.
Oui, et puis c'est pas pour rien qu'on en a qu'un seul en chapeau 1. En fait, c'est une classe très intrigante, très homogène, mais il n'y a pas la tête d'affiche, il n'y a pas le Derrick Brown où tout le monde dit « Waouh, quel monstre absolu !» Et du coup, Barmore, comme il est quand même meilleur que les autres, en tout cas sur le papier, forcément, il est celui qui est le plus exposé. Le chapeau 2, là, on n'a que du defensive tackle. On vous prévient tout de suite. On vous a fait un quatuor gagnant. Le premier, c'est Levi Onwuzurikiye de Washington, 1m90 et 130 kg. Le deuxième, c'est Davion Nixon de Iowa, 1m90 et 138 kg. Le troisième, c'est Tommy Togai de Ohio State, 1m88 et 136 kg. Et le quatrième, c'est Jay Tufele, USC, 1m90 et 138 kg. Donc on a quand même, à quelques kilos près, je dirais Levi est un tout petit peu plus léger que les autres, mais on a quand même quatre gabarits qui sont assez comparables. Et pourtant, ils sont pas forcément utilisés de la même manière, ils n'utilisent pas forcément leur corps de la même manière. Donc si on va sur le premier, Levi Onwuzurikiye, on vous parlait de Washington il y a deux jours, on vous disait que les prodés seraient intéressants, bah, ça va être très intéressant. Il n'a pas joué en 2020. En 2019, c'est 45 plaquages, 6 plaquages pour perte et 2 sacs. Un adjectif pour le définir, et qu'est-ce qui te plaît chez ce joueur dont je crois que tu l'as en haute estime ?
Oh oui, oui, oui. Explosif, c'est un joueur explosif, explosif. Tu vois, tu viens de donner ses sacs, ses stats. Deux sacs, ça reflète pas du tout sa capacité. C'est vraiment quelqu'un qui est, comme tu disais tout à l'heure, disruptif, vraiment sur la ligne d'engagement. Il va arriver avec ses mouvements, avec sa fluidité, avec sa puissance, même s'il manque un tout petit peu de gabarit. Il arrive vraiment à transpercer la ligne offensive et attaquer le quarterback. C'est vraiment quelqu'un que tu prends pour mettre la pression depuis l'intérieur. Et ça, on sait que c'est vraiment précieux, quoi. C'est un peu une sorte de Ed Oliver des Bills, c'est-à-dire voilà, attaquer la poche, mettre la pression, quelqu'un de très fluide et de grand avec une belle envergure. C'est vraiment un beau prospect, un beau profil.
Oui, je suis assez d'accord. Et puisqu'on a intitulé, même si c'est réducteur par rapport à l'analyse qu'on fait, mais puisqu'on a intitulé l'article Run Stop, en défense de course, il est très bon aussi. Parce que il est explosif, il a des bonnes mains, mais il est très réactif et plutôt bon en mobilité latérale. Après, je dirais que s'il faut se faire l'avocat du diable, il base son pass rush uniquement sur l'explosivité. Il n'a pas vraiment de deuxième mouvement, de contre-mouvement. Il ne va pas sauter dans un second temps son joueur adverse. Donc bon, c'est pas rédhibitoire au poste défensif tackle, mais c'est à noter. Et je dirais que par contre, au niveau système, lui, il est vraiment... C'est un 3 technique 4-3. Il ne peut pas jouer ailleurs, pour moi.
Ouais, je sais pas. Peut-être même dans une 3-4 en défensive end, non? Ouais, tu penses pas? Il a un peu ce gabarit-là, quand même.
Il faut qu'il prenne un peu de kilos dans ce cas-là. Qu'il prenne 5-6 kilos, et puis pourquoi pas, ouais. Ouais, moi, vraiment, pour l'instant, j'imagine en 4-3, mais en effet, après, des projections, c'est toujours difficile, parce qu'on peut toujours projeter dans un système, mais même d'une 4-3 à une autre, d'une 3-4 à une autre, selon des schémas, t'auras pas besoin des mêmes joueurs. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué.
C'est vrai, mais je comprends ce que tu dis. Le mettre dans une 4-3 à côté de quelqu'un de plus massif, à côté d'un bon obstacle, tu vois, oui, effectivement.
Oui, c'est ça, le 3-tech pur. Je ferai un article éventuellement sur les techniques pour que vous sachiez ce qu'on veut dire par 1 technique, 3 techniques, 5 techniques. C'est par rapport au placement pré-snap. Ça serait intéressant de faire un article là-dessus. Le deuxième profil, c'est ton chouchou. Et alors, il faut rendre hommage à Jean-Michel, Daniel Jeremiah France, qui, un mois avant le consensus, avait déjà ce joueur très haut. C'est Davion Nixon de Iowa.
Ah ouais, j'aime beaucoup.
Donc ouais. 45 plaquages, 13,5 pour perdre, 5,5 sacs, une interception, un fumble forcé, un touchdown. Donc là encore, on est sur des très belles lignes de stats. Explique-nous pourquoi tu as comme chouchou Davion Nixon.
Parce qu'il est très agile pour son gabarit. C'est vraiment un gros bébé, un gros défensif tackle. Si tu regardes juste son physique, tu dis, bon, ok, c'est un obstacle, etc., pour le run-stop. Mais pas que, il est super agile, il est très athlétique. En plus, c'est un joueur qui a vraiment un caractère incroyable parce que, pour des raisons académiques, il n'a pas pu intégrer l'université tout de suite, donc il est passé par le junior college. Il a dominé le junior college pendant 2 saisons. Puis finalement, il arrive à Iowa. Et puis enfin, quand il est titulaire, ben, il éclate tout, quoi. Il éclate tout. C'est un monstre athlétique, un gros gabarit, mais qui bouge très, 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 très bien.
Oui, et il manque de constance, quand même. Moi, c'est le seul truc, il est frustrant. Il est talentueux, mais frustrant. Parfois, il déconnecte. Les fils se déconnectent et il n'est plus là. Mais l'avantage, c'est qu'en général, ça se coach. C'est pas un défaut structurel, c'est pas un manque de gabarit ou vraiment un défaut qui ferait que il serait éliminé des analyses des scouts. Je pense que voilà, c'est un joueur, notamment à cause de l'expérience Juco, qui est peut-être parfois sur certains aspects un peu jeune, pas forcément techniquement, mais mentalement dans le focus. Mais clairement, il y a du talent à plus savoir quoi en faire. Et tu l'as dit, hein, explosif, agressif dans le bon sens du terme. Il provoque le jeu, il laisse pas le jeu venir à lui, il le provoque. Et défense de course aussi, excellent. Enfin, vraiment, c'est un joueur qui a le potentiel, je dis bien le potentiel, de créer la surprise et d'avoir une équipe amoureuse qui le prend en premier defensive tackle. Moi, je dis que c'est pas inenvisageable.
Ouais, c'est possible. Ouais, effectivement.
Même si Barmore reste favori, hein, mais on a vu plus étonnant que ça dans les drafts précédentes.
Moi, je lui cherchais un défaut et j'en ai trouvé qu'un, et c'est celui-là que tu as dit, c'est la constance. Mm. Mais effectivement, ça se coach. Et puis, de toute façon, c'est très bien qu'en NFL, c'est tellement difficile les 60 minutes qu'il y a toujours de la rotation sur la ligne. Donc, du coup, je trouve que c'est pas non plus gênant. Alors qu'à l'université, c'est un petit peu plus gênant dans le sens où, quand t'as un joueur comme lui, forcément, c'est ton joueur majeur sur la ligne. Et donc, t'attends de lui qu'il produise à chaque fois. Alors qu'en NFL, il va produire ne serait-ce que les deux tiers du temps et ça sera déjà largement suffisant.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, du coup, de mon chouchou, on va passer au tien.
Exactement. Passe à mon chouchou, parce que je vous parlais dans l'épisode d'avant de Ronnie Perkins, je vous disais que j'avais tenté de sortir du chapeau 2 et que j'avais pas réussi, voilà c'est inverse, c'est Jean-Mi qui voulait sortir du chapeau 2, moi je lui ai dit non tu le laisses là où il est, Tommy Togiai, alors c'est un joueur qui a des mains violentes, qui a un bull rush extraordinaire, qui est très mobile je trouve pour son gabarit, il a un potentiel physique qui est peut-être limité. Lui aussi, un peu comme Onzunorike, sera peut-être uniquement un 3 technique en 4-3. Mais je trouve que cette année, il a 23 plaquages, 4,5 pour perdre, 3 sacs, 2 passes défendues, un fumble forcé. Il a montré dans une équipe ultra productive. Alors, la ligne de stats n'est pas forcément ronflante, mais à Ohio State, c'est quand même très bien réparti pour le coup, parce qu'il y a du talent un peu partout. Enfin, en tout cas, sur les deux premières lignes de défense. Sur la troisième, c'était un peu plus compliqué cette année. Mais globalement, c'est un joueur qui a prouvé pour moi qu'il avait le niveau vraiment pour la NFL. Moi, c'est un joueur que je n'aimais pas du tout avant la saison. Et il m'a totalement conquis, vraiment. La manière dont il place ses mains, on a vraiment l'impression d'un judoka qui sait exactement où placer la main pour aller faire tomber l'adversaire. C'est assez prodigieux. Moi, il y a du bull rush intelligent et il y a du bull rush de sauvage. Lui, il est sur du bull rush intelligent. Il fait ça avec plus en utilisant son corps que sa puissance. Et du coup, j'aime beaucoup le joueur.
Ouais, mais tu peux. Hein. Je voulais le lever, mais pas pour le mettre très loin. Hein. C'est un bon joueur. C'est vrai que moi, il m'a surpris cette année. Parce qu'avec Ohio State, comme tu dis, il y avait une grosse rotation. Je voyais surtout Haskell Garrett. Et puis en fait, c'est Tommy Togiai à côté de lui qui produisait le plus. Alors ce que j'aime beaucoup chez ce joueur, c'est notamment sa rapidité du premier pas. Voilà, dès qu'il y a l'engagement du ballon, hop, il est parti, il est au contact, il a un premier pas explosif. Après, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est par rapport à son petit manque de gabarit, etc., tu le verrais plutôt dans quel système ?
Bah, du coup, moi, une 4-3 où vraiment il est 3-tech, 5-tech, quoi. C'est vraiment, pour le coup, là, il faut un très gros à côté de lui. Et après, je pense qu'une 3-4, ce serait compliqué. Vraiment, en defensive end, faudrait qu'il prenne du poids et qu'il montre des choses qu'il n'a pas montrées aujourd'hui. Donc, encore une fois, je dirais 4-3. Globalement, il y a beaucoup de joueurs que j'imagine en 4-3. Le dernier de la liste, moins. Il pourrait être plus polyvalent, mais je pense que dans un système type Eagles, par exemple, à côté d'un Fletcher Cox, ça peut être pas mal. Donc, ouais. À voir, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, personnellement.
Ouais. Au Lions de Détroit aussi, pourquoi pas, ouais.
Oui, bon, de toute façon, aux Lions, on ne sait même plus quel système ils ont. Ils n'ont plus de joueurs, donc on verra quel joueur ils ont et on en fera un système. Les pauvres. Jetu Fele, notre quatrième, USC, 1m90, 138 kg, 41 plaquages, 5,5 pour perte, 3,5 sacs et une passe défendue. Ce sont ses stats de 2019, puisqu'il n'a pas joué en 2020. Explique-nous ce qui te plaît chez ce joueur californien.
Ce que j'aime bien, c'est son agressivité. Moi, je le trouve très agressif. Dès qu'à l'engagement, il est agressif. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est agressif au contact avec les linemen, dès que le ballon est engagé. Il est agressif lorsqu'il arrive à attraper un coureur ou un quarterback. Il est tout le temps dans l'agressivité, dans l'agression de la ligne adverse. C'est vraiment un joueur pour attaquer la poche, lui aussi. Ensuite, il a un bon gabarit tout de même. Donc, comme tu dis, il peut jouer en 4-3, il peut jouer en 34. Mais par contre, paradoxalement, je trouve que souvent, sur certains jeux, malgré ce gabarit, il manque un peu de puissance. C'est ça qui, parfois, me fait un petit peu douter et me ferait le mettre quatrième de ce chapeau 2, par exemple, tu vois. Il a de sacrées qualités, notamment son agressivité, mais voilà, des fois, ça manque lui aussi un petit peu de constance et puis peut-être un petit peu de puissance. Alors, je ne sais pas si c'est un problème technique, mais bon, ça peut se corriger de toute façon.
Ouais, moi, j'ai envie de dire que le principal problème que j'ai avec lui, c'est qu'il tombe quand même très souvent sur les fesses. Il a un petit problème d'équilibre. C'est un peu le côté kid bullying. C'est, ça part très vite, mais alors s'il est contré, il est contré, quoi. C'est fini. Et on le reverra plus. Donc, je pense qu'en effet, voilà, il y a d'agressivité, il y a d'agilité. Il y a mine de rien, techniquement, c'est peut-être le plus aguerri de ces katas. Peut-être le plus mature, on va dire. Alors, il n'a pas forcément autant de capacité de développement que les autres, je pense. Mais du coup, il est quand même très mature techniquement. Mais voilà, il est limité, pas tellement en gabarit, lui, c'est pas ça qui le limitera, mais plus, voilà, dans le jeu, parfois, le gabarit ne fait pas le joueur, et il a tendance, pour moi, trop souvent à perdre le duel trop facilement, en fait. C'est à être trop agressif, c'est bien quand tu passes, mais quand tu passes pas, il faut pouvoir tenir sur tes jambes. Et lui, il a parfois un peu de mal à faire ça.
Mmh. Ouais, je te rejoins.
Bon, si on classe les 4, vite fait, 1, 2, 3, 4.
Nixon, Anwuzurike, et puis entre Toufele et Togai, mon cœur balance.
Bon, bah pour moi, ça sera Anwuzurike, Nixon, Togai et Toufele. En quatrième pour le coup, parce que j'aime beaucoup Togai, mais pour l'instant, on y reviendra, puisqu'on fera comme au dernier épisode. Les projections à la fin de l'épisode, parce que c'est plus lisible comme ça. C'est un joueur que je vois pas encore au niveau de Nixon et Anwuzurike, quand bien même ça soit mon chouchou. Mmh. On va passer aux valeurs sûres et à la deuxième partie de l'épisode. Et là encore, on va avoir beaucoup, beaucoup de profils à vous présenter.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Valeurs sûres. Les valeurs sûres, j'ai envie de dire qu'il y en a un qui est peut-être la valeur sûre, en tout cas au poste de linebacker, c'est Nick Bolton, de Missouri, 1m83, 105 kg, 95 plaquages, 8 pour perte, 2 sacs, 5 passes défendues, un fumble recouvert. C'est notre valeur sûre commune, hein, puisqu'après on en a pris une chacune, mais celui-là vraiment c'était l'évidence. C'était soit le chapeau 2, soit la valeur sûre. Donc, je te laisse nous expliquer ce qui plaît chez Nick Bolton et éventuellement ses limites également.
Ben, c'est une machine à plaquer. C'est pour ça que c'est une valeur sûre. Tu vois, tu parlais de 95 plaquages en 2020. Il en a fait 103 en 2019. C'est vraiment une machine à plaquer. Alors lui, par contre, quand tu veux courir contre lui, c'est très très difficile parce qu'il prend de bons angles, il arrive comme un boulet de canon, et puis s'il faut se rediriger, il n'y a pas de souci. Alors c'est pas le plus athlétique, c'est pas le plus rapide non plus, mais par contre, voilà, il a un instinct pour défendre la course, c'est incroyable, c'est vraiment la machine à plaquer. Alors, ce sera peut-être pas, dans un premier temps, le linebacker pour les 3 tentatives, mais sur les 2 premières, ce sera un titulaire, j'ai aucun doute là-dessus. C'est vraiment la valeur sûre par excellence.
Oui, moi, c'est ça qui est frustrant avec ce joueur. Frustrant, là, pour le coup, pour lui, pas pour nous. C'est que, finalement, ses imitations, il n'y peut rien, quoi. Il n'a pas une vitesse incroyable et il n'a pas une taille incroyable. Mais ça, après tout, c'est imitation naturelle et il n'y peut rien. Par contre, sur ce qu'il peut travailler... c'est-à-dire son intelligence de jeu, sa polyvalence, sa qualité de plaquage, sa qualité de couverture, etc., il maximise son potentiel partout. Il est limité naturellement, ce qui fait qu'il ne sera pas un premier tour, ou en tout cas, éventuellement, il pourrait craquer une fin de premier tour, on y reviendra, mais il a ses limites physiques, mais alors, sinon, c'est un joueur intelligence énorme, bosseur, à mon avis, énorme. Pour arriver à ce niveau-là, il faut être un bosseur, donc c'est un profil qui va plaire. Et clairement, c'est la définition même de la valeur sûre. Je pense que ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne soit pas titulaire pendant 10 ans en NFL à différents postes, sûrement plutôt côté faible ou au milieu. Mais bon, c'est un joueur qui aura sa place. Il aura sa place, ouais. Ça ne fait pas de doute.
Ouais, exactement.
Une autre valeur sûre au niveau des linebackers, c'est Jabril Cox de LSU. 1m93, 104 kg, 58 plaquages, 6,5 pour perte, 1 sac, 3 interceptions, 5 passes défendues, 1 fumble recouvert et 1 touchdown. Là, on est sur un joueur spécialisé en tout cas, qui montre particulièrement ses talents en couverture de passe. Et ça, c'est intéressant parce que c'est finalement pas toujours l'apanage de l'intégralité des linebackers. Il est excellent en couverture de passe. Il est rapide, il est explosif. En presse contre des tight ends, il n'a pas peur. Il va au mastic, il défend son duel. Vraiment, j'adore ce joueur. Il faut qu'il progresse en plaquage. Ça, c'est vrai. Et du coup, en fait, c'est toute la défense de course en soi qui pourrait être polie chez ce joueur. Il y a la vision, il y a le plaquage, il y a tous ces domaines ultra importants en défense de course qui peuvent être améliorés. Mais globalement, tu disais Nick Bolton pour les deux premières tentatives. Jabril Cox, la première année, à minima, tu utilises sur les troisièmes tentatives. Et après, s'il se développe, il pourrait même être utilisé sur les trois. Mais aujourd'hui, c'est un profil différent, c'est un profil atypique, et du coup, il va plaire à de nombreuses équipes.
Ah oui, c'est obligé. Surtout qu'en plus, ce que j'aime beaucoup, et qui à mon avis, les franchises aiment beaucoup aussi, c'est que c'est un joueur qui jouait donc au niveau FCS, c'est en gros la deuxième division universitaire.
À North Dakota.
Voilà, c'est ça. Et donc, à ce niveau-là, c'était un des meilleurs joueurs de toute la division. C'était vraiment non seulement le leader de l'équipe, mais un des meilleurs de tout ce niveau-là. Et ce qui est extraordinaire avec ce joueur, c'est qu'il n'a pas hésité à se remettre en cause, à se remettre en question, quitte à faire baisser sa cote. Même, il a pris un risque. Il est allé à LSU, et à LSU, il a fait exactement la même chose, c'est-à-dire productif sur le terrain, en même temps un leader, et puis avec les qualités que tu as nommées, c'est-à-dire qu'il est grand, il est athlétique, il court vite, il bouge bien. Et il défend très bien au niveau de la passe. C'est quelqu'un qui, pour la couverture, est très précieux. Donc, ouais, c'est un sacré beau profil, lui aussi.
Quel dommage que Treden ne s'est pas suivi l'exemple de Jabril Cox pour venir montrer qu'il savait faire quelque chose en FBS. Non, bah, je pense que là, Jabril Cox, on a fait le tour. Notre troisième valeur sûre, c'est Alim McNeil, donc de North Carolina State. Donc 1m88, 145 kg, 25 plaquages, 4,5 pour perte, un sac, une interception, un fumble recouvert, un fumble forcé et un touchdown. Explique-nous ce qui te plaît au point de faire une valeur sûre de ce joueur.
Ben déjà parce que ça fait 3 saisons qu'il produit, il est très constant, ça fait 3 saisons qu'il est très très bon, notamment dans le run stop. Alors lui, c'est un profil vraiment très différent de Onwuzurike. C'est le nose tackle par excellence. Il est grand, il est lourd, il est puissant, mais il produit tous les ans, il produit 2018, 2019, 2020, il est toujours là sur la ligne, il est très très difficile à bouger, il arrive même à bouger la poche aussi parce qu'il a quand même des sacs, il arrive à attaquer le quarterback. Mais bon, ça sera vraiment le nose tackle par excellence. Et lui aussi, il aura sa place en NFL pendant quelques années, quoi. Alors, il va falloir qu'il développe un petit peu ses mouvements. Il a encore du travail technique à faire. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement solide.
Oui, on fait un peu le parallèle avec les edges. Quand on disait de beaucoup de edges qu'ils étaient bruts, bah lui, c'est ça, il est brut. Après, ça nécessite travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas développer son potentiel. Aujourd'hui, il est disruptif, mais pas décisif. Faut qu'il apprenne à devenir décisif, mais il est déjà aujourd'hui une gêne pour le quarterback adverse. Et clairement, c'est un super joueur. Je pense que il faut le couver un an ou deux. Mais si t'arrives à choper un mec comme ça, ou à minima, c'est un excellent remplaçant, et il y a de grandes chances qu'il finisse par être titulaire. Je suis assez d'accord avec toi.
Ah oui, au moins sur les deux premières tentatives, parce que oui. Contre la course, voilà, c'est vraiment un rock sur le premier rideau.
Non, c'est ça, il a un vrai potentiel, et puis on en parlait, là finalement on a parlé beaucoup de joueurs de 4-3, des joueurs purs comme ça, no stake 3-4, il n'y en a pas tant que ça cette année, donc là encore, la rareté du profil peut lui permettre de bénéficier d'une sélection un peu plus haute que celle à laquelle il aurait pu prétendre dans une autre draft. On va passer aux énigmes. Et alors là encore, on avait la valeur sûre. Bah, j'ai envie de parler de l'énigme. Dylan Moses, Alabama, 1m90, 108 kg, 76 plaquages, 6 tacles pour perte, 1 sac, 1 interception, 3 passes défendues, 1 fumble forcé. Si vous n'avez pas regardé la NCAA depuis 2 ans, et que vous aviez regardé avant, Pour vous, Dylan Moses, c'est un top 10 de draft. Sauf qu'entre-temps, il y a eu une très grosse blessure. Et on a retrouvé un joueur qui n'est pas exactement le joueur qu'on avait laissé avant la blessure. Jean-Mi, ton avis sur la saison 2020 de Dylan Moses ?
Bah, c'est une bonne saison. Hein. Quand tu vois ce qu'il a fait cette année, c'est une très bonne saison. Hein. Donc tu te dis, c'est un bon linebacker parce qu'il a encore de la vitesse. C'est un très bon plaqueur, ce qui est quand même la qualité essentielle qu'on demande à un linebacker. Il a un très bon QI football aussi. Donc c'est vraiment un bon joueur. Mais comme tu dis, le seul truc, c'est qu'en 2018, on ne voyait pas un bon joueur. On voyait un super joueur, un top 10 de la draft. Et ses blessures, voilà, ont fait qu'il a quand même perdu de son explosivité. Et c'est pour ça qu'on le voit aujourd'hui un peu comme une énigme. Parce que malheureusement, l'explosivité en NFL, c'est essentiel. Puisque c'est la crème de la crème des meilleurs joueurs universitaires, année après année. Donc forcément, tu as besoin de ça. Et que va donner Dylan Moses ? Alors, à minima, moi, je vais dire que c'est déjà un bon linebacker et il aura sa place en NFL. Mais c'est plus ce profil hyper séduisant.
Il y avait une hype à la Micah Parsons. Hein. Enfin, je veux dire, on était sur des profils de ce niveau-là. Malheureusement, les blessures, ça ne serait pas le premier à perdre son explosivité. Hein. Que serait devenu J.J. Watt, qui est quand même triple défenseur de l'année, mais s'il n'avait pas eu ses blessures... On parlerait peut-être pas d'Aaron Donald aujourd'hui, on parlerait peut-être toujours de J.J. Watt, donc les blessures c'est toujours compliqué. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est en 2020, il n'avait pas l'explosivité d'avant blessure.
Non, voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il va la retrouver plus tard ? J'en doute, j'aimerais vraiment pour lui, mais du coup j'en doute. Mais en effet, c'est vraiment le joueur en pass rush, en plaquage, c'est un joueur intelligent, il fait toujours les bons choix. C'est pas le meilleur en couverture. C'est pas ce qui a été première, mais enfin, c'est pas catastrophique non plus. Hein. On est vraiment sur un joueur complet. Et voilà, c'est Micah Parsons avec une blessure. Ouais. C'est triste de dire ça, mais c'est pas exactement le même joueur. Mais dans l'idée, c'est vrai que la hype s'est un peu évaporée. Mais en effet, il faut pas oublier que ça reste un super joueur. C'est juste par rapport aux attentes. Forcément, quand t'attends un top 10 et que t'as un deuxième ou troisième tour, t'es un peu déçu au fond de toi parce que tu te dis ça aurait pu être tellement mieux. Mais ça reste quand même génial d'être un deuxième ou troisième tour.
Mais exactement, parce qu'en plus il jouait pas que sur son explosivité. Comme on l'a dit, il est très bon en plaquage, il a de bons instincts, il lit bien les attaques. C'est un bon linebacker.
Non, c'est clair. Jalen Twyman, Pittsburgh, opt-out. 2020, 1m88, 131 kg. Donc en 2019, 41 plaquages, 12 plaquages pour perdre, 10 sacs et demi et 2 passes défendues. Ça fait partie de ces joueurs. Il y a des joueurs dont la hype ne s'est pas démentie même après leur opt-out. Il y a des joueurs dont la hype s'est un peu évaporée. Lui, ça fait partie des joueurs dont la hype s'est un peu évaporée. Rappelle-nous pourquoi il est un bon joueur et dis-nous pourquoi c'est une énigme.
Ben, un bon joueur parce que c'est sa capacité à attaquer la poche qui est incroyable, incroyable. Alors c'est sûr que le parallèle est facile vu qu'il vient de la même université, mais c'est vrai qu'il fait aussi penser à Aaron Donald. Alors toute proportion gardée évidemment, mais c'est ce type-là de joueur en defensive tackle. C'est quelqu'un qui attaque la poche et qui le fait extrêmement bien avec premier pas rapide, avec fluidité de mouvement, avec agressivité. C'est vraiment un super joueur. Et quand tu disais qu'il a perdu un petit peu de sa hype, mais c'est beaucoup de sa hype, beaucoup, vraiment même trop je trouve. On retrouve souvent ce joueur en fin de troisième tour dans les mocks et c'est un petit peu même incompréhensible. C'est vraiment le joueur qui perd sans doute beaucoup de points du fait de l'absence du combine cette année. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il donne athlétiquement. Donc, hier, il y avait son Pro Day à Pittsburgh. Est-ce que ça va faire un petit peu remonter sa cote ? Puisqu'on sait que c'est important tout de même, les tests athlétiques, parce que ça remplace jamais le jeu sur le terrain. Bien sûr que les scouts regardent tout d'abord la production sur le terrain, dans les matchs. Mais pour se projeter vers la NFL, vu que c'est tellement athlétique, les tests sont importants. Donc, peut-être qu'il aura fait un petit peu remonter sa cote. J'espère pour lui, parce que c'est un joueur qui, en tout cas, est électrisant. C'est un plaisir de le voir jouer sur le premier rideau, sa façon d'attaquer, c'est un plaisir à voir.
Oui, la comparaison avec Aaron Donald fait sens. Alors c'est vrai que Aaron Donald, il y en a plein qui ont le physique d'Aaron Donald et il y en a peu qui arrivent à être Aaron Donald. Par définition, il n'y en a qu'un seul. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui produit beaucoup de sacs, mais à l'image justement de Donald, plus par technique que par puissance. C'est pas un monstre qui va pousser la ligne offensive et aller se frayer un chemin, non. Techniquement, il se faufile, il a toujours le bon mouvement de bras, il écarte son vis-à-vis, il passe en dessous, il peut poser sa main au-dessus pour prendre du leverage. Enfin, c'est vraiment un joueur intéressant, c'est un joueur qui a un moteur impressionnant, parce que, alors, premier carton, quatrième carton, même intensité. Là, on est vraiment sur un mec intensité 100% tout le match, donc ça, c'est très intéressant aussi. Après, oui, bah, il est un peu léger, mais on disait ça d'Aaron Donald, encore une fois. La défense de course, il pourrait progresser un peu, mais globalement, je suis d'accord avec toi. C'est, je veux dire, que des opt-out fassent descendre des joueurs parce qu'il y a d'incertitude et moins d'expérience, je comprends. Moi, ça me choque pas. Mais à ce niveau-là, c'est compliqué quand même. Alors, bon, on sait pas, hein, Marvin Wilson nous a montré que opt-out, ça permet aussi de pas descendre de 4 tours, hein. Mais bon, globalement, ouais, je comprends pas non plus ce manque d'amour pour ce joueur, qui est pourtant tellement talentueux, c'est assez incroyable. Moi, je vais vous parler de Pete Werner, un linebacker Ohio State, 1m90, 109 kg, 54 plaquages, 2,5 tacles pour perte, un sac, une passe défendue, 2 force fumbles. Dans la défense d'Ohio State, on a beaucoup parlé de beaucoup de joueurs, mais pas assez de lui. Je trouve, au fil de l'année. Beaucoup se sont concentrés sur Baron Browning, qui est un phénomène physique, mais quand je regarde sur le terrain, personnellement, il ne m'impressionne pas au point de tomber de ma chaise. Par contre, Pete Werner, j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est polyvalent, qui est intelligent, qui est athlétique, qui a des bonnes mains, qui plaque très bien, qui progresse chaque année. Et moi, j'aime bien dans ces joueurs... dans des tours intermédiaires, ces joueurs qui progressent chaque année, ça prouve que c'est des bosseurs. Ça prouve que c'est pas qu'ils sont talentueux de base, c'est juste des bosseurs. Après, c'est pas la vitesse que tu attends d'un linebacker. Et ça va beaucoup te desservir. Et ça explique qu'il soit pas premier ou deuxième tour. Et en défense de passe, il est parfois un peu naïf. Il se concentre beaucoup sur le quarterback, mais d'ailleurs Baron Browning aussi. Il se concentre beaucoup sur. Ils ont l'impression que c'est Jameis Winston et qu'ils vont pouvoir intercepter chaque passe. Sauf que tous les quarterbacks ne font pas des cadeaux aux linebackers. Et du coup, parfois, il faut aussi suivre ton joueur et il a tendance à l'oublier de temps en temps. Mais malgré tout, je trouve que c'est un joueur vraiment complet et je le vois pouvoir évoluer dans beaucoup de systèmes. Il peut évoluer pour moi. En 4-3 au centre ou côté faible, en 3-4 au centre. Les deux sont envisageables. Et c'est un joueur qui est trop intelligent pour pas être utile en NFL. Je suis pas en train de dire que ça va devenir un All-Pro, mais je pense qu'avec un peu de travail, ça peut devenir un bon titulaire.
Oui, c'est ça, un bon titulaire. Moi, je pense aussi, ouais. Comme tu l'as décrit, il est très complet, il fait beaucoup de choses très bien. Et puis, il a beaucoup d'expérience dans une grosse fac, lui aussi, des gros matchs. Et puis, c'est vrai que cette année, à Ohio State, la ligne de linebacker, comme tu dis, il y avait Baron Browning, il y avait aussi Justin Hilliard. Et puis finalement, le plus souvent, c'était Pete Werner qui tirait son épingle du jeu dans les matchs. C'est lui qu'on voyait le plus parce qu'il fait beaucoup de choses. Alors oui, il manque un peu de puissance, il manque un petit peu de vitesse, mais c'est un joueur intelligent qui fait beaucoup de choses. Lui aussi, je pense qu'il fait saliver les défensifs coordinateurs de NFL.
Imagine le talent de Pete Werner dans le corps de Baron Browning.
Oui, voilà,
là, on ferait un super linebacker. Ça part au premier tour, monsieur. Moi, je te l'annonce tout de suite.
C'est ça. Il faudrait faire du Frankenstein, en fait.
Ouais, ils n'y ont pas pensé à Ohio State, mais en fait, il faut mixer les deux. Ouais. Non, mais c'est. Voilà. Moi, je voulais parler de ce linebacker qui est vraiment un de mes chouchous. Décidément, attends. Parce que je tiens à dire que sur Twitter, ça fait 3 mois qu'on me dit que je suis un hater de Ohio State. Je viens de dire que mes deux chouchous de cet épisode sont Tommy Togiai et Pete Werner. Donc, les mythes tombent les uns après les autres. J'aime pas les running backs, j'aime pas Ohio State. Les mythes sont en train de tomber. Donc ouais, il fallait parler de ce joueur.
Justice pour Victor.
C'est ça. Marre des calomnies. Passons aux sleepers. Alors, au niveau des sleepers... Donc tu nous as fait dans l'original, entre guillemets, peut-être quand même moins que le dernier épisode, mais un joueur qui finalement est très sous le radar, alors qu'il est loin d'être inintéressant, C'est Taquan Graham de Texas, 1m93, 133 kg, 23 plaquages, 7 pour perdre, 2 sacs et 1 fumble récupéré. Explique-nous ce qui te plaît chez ce joueur Taquan Graham.
Oh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, son gabarit, je veux dire, c'est vraiment un beau bébé et la mobilité qu'il a pour son gabarit, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est son agressivité, c'est son moteur. C'est à l'image de son coéquipier Joseph Ossai, il ne s'arrête jamais. Alors, je ne sais pas si ça dépend des coachs de Texas, peut-être, mais voilà, le gars, il ne s'arrête jamais, il va toujours au combat. Si le jeu part de l'autre côté, eh ben, ce n'est pas grave, il recule, il sprint, même s'il n'arrivera pas forcément à rattraper le joueur, mais il sera là, il joue le jeu tout le temps. Ensuite, c'est un joueur qui a une envergure, mais immense, immense. Il a des bras très longs. Et ça, pour les duels avec des swing moves, souvent, il s'en sort comme ça. Alors ensuite, bon, il faudra voir son utilisation à NFL. Moi, je ne sais pas. Il peut jouer sans doute dans une 43, mais dans une 34, par exemple, comme un defensive end pour aller mettre la pression, pour attaquer la poche. Moi, il me plaît beaucoup, ce joueur. Tu vois, sur troisième tentative, je pense qu'il peut faire des dégâts.
Oui, je pense que c'est son meilleur système. Je pense que c'est là où il peut faire son trou en NFL, en effet, dans une 34. Il est puissant et il est expérimenté, mine de rien, 48 matchs, dont 24 titularisations. Donc c'est quand même une grosse expérience. Alors, il est mobile, mais pas rapide. Enfin, moi, en tout cas, de la manière dont j'analyse, c'est vrai qu'il n'a pas, l'explosivité qu'on attendrait en NFL, mais ça sera moins pénalisant en 34. Je le pense vraiment. Et oui, c'est un joueur qui il a encore un peu de dans la prise de décision, il a du progrès à faire. Mais globalement, on parle de sleeper, donc par définition, ils ont des progrès à faire. Mais t'as raison que ça peut être un joueur utile. Après, pourquoi pas titulaire sur le long terme, mais en tout cas utile.
Ouais.
Moi, je vais vous parler de Tony Field 2. Le fils de Tony Fields, je suppose.
A priori.
qui nous a fait une petite saison bonus cette année à West Virginia. Et il a bien fait. 1m85, 99 kg. Il a fait 88 plaquages, 4 plaquages pour perte, un sac, une interception et 2 passes défendues. C'est donc un linebacker. Je ne sais pas si j'avais précisé. C'est un joueur extrêmement athlétique. Très bon en défense de course, très intelligent, très bon plaqueur. Vraiment, c'est ce genre de joueur qui rassure sur ce domaine-là. Donc on va dire que sur les premières et deuxièmes tentatives, utile. Utile, pas de problème. Après, il n'est pas physiquement impressionnant, hein, puisque je parlais de Jeremiah Owusu-Koramoa qui fait 1m85, bah il fait 1m85 aussi. Donc il a les mêmes limitations physiques. Il n'est pas beaucoup plus lourd, donc c'est vrai qu'il n'a pas les dimensions d'un linebacker classique, on va dire. Et au niveau de la couverture de passe, c'est pas ça, par contre. En troisième tentative, il y a beaucoup à progresser. Donc ça va être un joueur qui, je pense, sera limité. Et ça l'empêchera sûrement dans sa carrière de devenir un joueur qui joue les trois tentatives. Mais sur les deux premières, il peut être, à mon avis, extrêmement utile. Et pour poursuivre le coureur, il n'y a pas beaucoup mieux.
Ouais, ouais, les deux premières tentatives et équipe spéciale aussi.
Ah oui,
c'est
oui,
important
oui.
Également.
Tu as raison de préciser.
Et tu vois, tu rappelais ces stats en plaquage. Moi, je vais vous donner carrément ces 4 années, puisque en 2017, il fait 104 plaquages. En 2018, 89. En 2019, 94. En 2020, en seulement 9 matchs, il en fait 88. C'est lui aussi une valeur sûre, quelque part. C'est vraiment une machine à plaquer. Et puis, ce que moi, j'aime beaucoup, et que je pense donc que les GM aimeront beaucoup aussi, c'est, comme tu l'as dit, ce joueur vient d'Arizona. Donc, dans la conférence Pac-12, il a fait 3 saisons là-bas. À cette intersaison, on ne savait pas trop si la Pac-12 allait jouer, pas jouer. Donc lui, il s'est dit non, moi je veux jouer, donc je demande un transfert. Ce qui veut dire que le gars, il a tout de même transféré dans une autre conférence, une toute autre région des États-Unis. Et puis qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, exactement la même chose, il a continué à être une machine à plaquer. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand il partira en NFL, il va donc là aussi sans doute changer de région, changer d'environnement, etc. Mais il a déjà montré qu'il est capable de s'adapter et de conserver sa production. Et ça, c'est très précieux. Alors oui, on parle d'un sleeper, puisque voilà, son gabarit, puisque la couverture, etc. Mais un 53 en NFL, NFL, c'est pas constitué que de joueurs du premier ou de deuxième tour. T'as aussi besoin de joueurs de devoir comme lui. Et il va trouver sa place à NFL parce qu'il donne quand même beaucoup d'assurance. C'est un très bon choix au niveau des sleepers, Tony Fields.
Ah, c'est marrant, c'est mon sleeper et c'est toi qui en fais la plus belle description. Ah, je suis jaloux là, je suis jaloux, je vous le dis. C'est non, rien à rajouter. On arrête là-dessus, c'est fini. Merci, au revoir. Non, restez. On va parler des tours de draft. Donc, comme au dernier épisode, on va descendre tous les noms qu'on a donnés. Et bon, tu vas nous donner ton estimation. Et si jamais j'ai des différences, je te dirai. Micah Parsons.
Oh, top 10.
Top 10. Alors, je dirais top 15 compte tenu de son extra sportif et du fait que les gens vont se précipiter sur des quarterbacks et des offensive tackles. Puisque Kansas City a prouvé que sans ligne offensive, c'est difficile de gagner un titre. Mais bon, niveau talent, par contre, on est très très haut, ça c'est sûr. Jock, Jeremiah Owusu-Koramoah.
Pour moi, c'est une deuxième partie de premier tour. Voilà, alors ça peut partir au niveau des Raiders à 17, comme ça peut partir un petit peu plus tard, les Chiefs, par exemple, qui ont besoin aussi de linebacker. Mais c'est une deuxième partie de premier tour, je ne le vois pas aller au second.
Je sais pas. En fait, le problème que j'ai pour lui et Collins, c'est que le poste de linebacker comme le poste de safety est vraiment un poste qui est dégradé au niveau de sa valeur par rapport à d'autres. Et parfois, ça fait... Et running back, c'est le même problème. Parfois, ça les fait descendre à des niveaux qui ne correspondent pas à leur valeur. Donc, en fait, pour lui et pour Zaven Collins, je dirais, moi, entre 15 et 40 pour prendre large. Mais ouais. Parce qu'il y a toujours ce risque de un linebacker, un safety, un running back. Ouais, la valeur de la position n'est pas énorme, on va attendre le second tour.
Oui, c'est vrai, je te rejoins. Et puis c'est vrai qu'il y a une chose, on peut faire le parallèle entre linebacker et running back. Parce que c'est un parallèle qui fait que tous les ans, mais absolument tous les ans, sur ces deux positions, tu as énormément de joueurs qui sortent des rangs universitaires. Je ne dis pas que c'est les deux positions les plus faciles, mais c'est les deux positions où il y a toujours le plus de monde. Donc du coup, c'est vrai que les franchises peuvent aussi se permettre d'attendre, d'aller sur des positions où le talent est un petit peu plus rare, en se disant de toute façon, on trouvera un bon linebacker au deuxième ou au troisième tour. C'est vrai.
Christian Barmore.
Pour moi, c'est un premier tour, Christian Barmore. Alors, c'est vrai que ça ferait peut-être un poil haut, 17 les Raiders, même s'il y a un besoin. Mais tu vois, par exemple, même 25 aux Jaguars, il aurait tout à fait sa place. Pour moi, c'est une deuxième partie de premier tour, Christian Barmore.
Oui, je pense que l'absence d'un autre intérieur defensive line de talent fera qu'en effet, il passera pas le premier tour. Je suis assez d'accord avec ça. Levi Onwuzurike.
Je pense que c'est une première partie de deuxième tour. Voilà, parce qu'il a un petit peu des limites, comme on en a parlé, on ne va pas tout refaire, mais au niveau du gabarit, etc. Mais par contre, ce qu'il peut apporter au niveau du pass rush, je ne le vois pas passer, mettons, le pic 40. Je ne le vois pas dépasser ce pic-là.
Oui, fin de premier tour, début de second, c'est ce que j'avais aussi. Alors, c'est vrai que je voyais éventuellement les Chiefs se positionner sur lui ou des choses comme ça, mais... Là, ils ont peut-être d'autres priorités maintenant. Donc, début de deuxième tour, ça me va. Davion Nixon.
Fin de premier tour et début de deuxième aussi, ça dépend.
Ouais, même c'est un range, profil un peu même range que Onwuzurike, globalement. Ça dépendra de ce que les gens veulent, en fait. Ça dépendra du profil qu'ils veulent.
Ouais.
Tommy Togai.
Un petit peu plus tard, quand même. Moi, je trouve qu'il aurait vraiment de la valeur au début du troisième tour. Après, c'est possible qu'il parte un petit peu avant, hein, mais début troisième tour, je trouve que ça serait un choix solide.
Oui, Togai et Toufele, moi, je pense qu'ils valent un troisième tour. C'est pas inenvisageable qu'il soit pris en début de deuxième, mais en fin de deuxième, mais troisième me paraît bien. Toufele, tu l'as troisième tour aussi?
Ouais, mais peut-être un poil avant, c'est possible aussi. Ouais, fin de deuxième tour.
Du fait qu'il soit peut-être un profil plus facile à identifier que Togai.
Plus facile exactement. Système.
Niveau de versure, Nick Bolton.
Je le vois souvent en fin de premier tour. Ça me paraît quand même un poil haut avec ses limites.
Je suis d'accord, on le voit tout le temps dans les 30, 31, 32. Moi, je le vois deuxième tour.
Enfin... Oui, exactement. Pareil aussi. Ouais. Super run stopper, mais quelques limites. Par contre, solide choix du deuxième tour.
Jabril Cox.
Deuxième tour aussi. Après, si une équipe a vraiment besoin et veut de la couverture sur le second rideau, c'est possible qu'il parte en fin de premier, mais je pense que lui aussi, c'est un deuxième tour. Mais je ne le vois pas partir plus bas, par contre, parce que vraiment, il a des qualités qui font que...
Oui, je suis d'accord, deuxième tour. Alim McNeil.
Suivant les besoins d'une franchise, en fin de deuxième tour, ça peut le faire, mais sinon, c'est quand même un troisième tour, parce que c'est un obstacle. Et, alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a lui, il y a Tyler Shelvin, il y a Marvin Wilson, mais ils sont quand même assez peu. Mais ouais, je pense que quand même, vu son profil, un troisième tour. Ouais,
moi, j'avais mis deuxième partie de troisième tour. Donc,
ouais.
On n'est pas loin. Dylan Moses. Ça, c'est intéressant, Dylan Moses.
Hein. Ouais. Moi, ça m'étonnerait qu'il soit disponible au troisième. Moi, je le vois vraiment partir au deuxième, alors qu'on le voit souvent plus tard dans quelques mocks. Mais bon, après les mocks, on sait ce que c'est aussi. Hein. C'est très rarement juste. Pour moi, il a tout d'un deuxième tour. Hein. Parce que c'est comme tu dis, ce qui vraiment le dessert, c'est l'image qu'on avait de lui en 2018. Mais si tu regardes juste 2020, c'est un linebacker du deuxième tour. Hein.
Mais si Nick Bolton est second tour, pour moi, il n'y a pas de raison que Dylan Moses ne soit pas, en fait.
Ouais, c'est bien dit.
Donc, je suis assez d'accord avec ça. Jalen Twyman, du coup, notre cher ami Jalen qui descend les mock drafts. Toi, tu le vois où?
Moi, je pense qu'il va remonter, tout simplement. Hein.
Ouais.
Et alors, peut-être pas au premier tour, mais pour moi, c'est un second tour en puissance. Hein. Et tu vois, on parlait de Barmore aux Raiders, par exemple. S'ils font l'impasse qu'ils prennent un autre joueur, Jalen Twyman au deuxième tour des Raiders, mais je suis quand même fou, moi.
Non, je suis totalement d'accord. Moi, je pense que ça fait partie des joueurs. Ils peuvent pas rester aussi bas. Ils peuvent pas rester aussi bas, et je te dirais même que pour moi, c'est première partie de deuxième tour.
Oui, c'est possible, parce que tu vois, c'est un podcast un petit peu sur le run-stop, mais on parle des défensifs tackles qui font aussi du pass rush.
Bien sûr.
Et lui, c'est sa qualité principale, le pass rush. Et c'est tellement précieux, le pass rush en NFL, que forcément, rien que pour ça, c'est un deuxième tour.
Je suis assez d'accord avec ça. Pete Werner.
Ouais, ben voilà, c'est vraiment une énigme, lui, hein. C'est vraiment une énigme. Moi, je l'évaluerais plutôt comme un quatrième tour.
Moi, j'ai deuxième partie de troisième tour.
Oui, bah, on n'est pas loin, quoi. Donc, ouais.
On est à peu près là. Tony Fields.
Ah, je pense que c'est un joueur du sixième.
Sixième. Ah, je verrais bien au cinquième, quand même. Moi, je vois bien une équipe prendre le risque au cinquième. Mais bon, ça se défend.
Il y a du monde, quand même. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, c'est homogène. On n'a pas parlé de Chas Surratt, on n'a pas parlé de Jamin Davis, de Monty Rice, de Kaji Britt. Enfin, il y a quand même du monde en linebacker. Et, ouais, moi, je le vois plutôt sixième, mais c'est possible, cinquième.
Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de Cameron McGrone non plus. Oui, il y a du monde. Et du coup, il nous reste ton cher ami Taquan Graham.
Ouais, je pense que lui aussi, c'est fin cinquième et sixième tour,
ouais,
je
pense. Sixième tour, je suis assez d'accord.
Ouais.
Eh ben, on a fait le tour, mine de rien, hein, quand même. 4, 8, 11, 14, 16 joueurs. On vous a gâtés, quand même. Hein. Et on a réussi, on a presque réussi à mettre tout ça en une heure.
Ouais.
Ça sera la faute des jingles. C'est ça qu'il faudra se dire. Bon, ben, Jean-Michel, merci beaucoup. On a fait un point très complet. Encore une fois, une émission extrêmement agréable. On se retrouve mardi prochain pour les Defensive Back. Et il y a deux rappels à vous faire. À partir du 20 mars, les fiches draft à l'écrit qui commencent sur Touchdown Actu. Et ensuite, les 32 jours avant la draft, les capsules par équipe pour tout savoir des choix à faire équipe par équipe une fois que la free agency sera passée. Puisque là, on est dans les premiers jours de la free agency et ça signe de partout. Il va falloir analyser ça un peu au calme. Merci Jean-Michel.
Merci Victor, merci.
Et merci à tous pour votre écoute et bonne journée.
Allez, ciao tout le monde.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fismod pour Marshall Lynch, Rocas, Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback, calé sur le footer.